Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Un jour, une histoire qui révisite aujourd'hui les 5 premières années de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec un focus sur la date du 24 novembre 1965 que d'aucuns qualifient de coup d'état du feu président Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment on est arrivé à cette situation? Quelles sont les causes lointaines et immédiates de cette crise? Les conséquences? Les leçons à tirer 53 ans après cet événement? Des précisions à toutes ces questions dans votre magazine qui reçoit Ejeune Baniaku, Luapé et Potou. Il est professeur des sciences politiques à l'université de Kinshasa, ancien juge de la Cour constitutionnelle, ancien ministre et auteur de plusieurs ouvrages dont La lettre ouverte de Massiré. Et puis les aspects politiques de développement, analyse critique, la chronologie, monographie et documentation sur l'histoire politique de la République démocratique du Congo des années 60 aux années 90. Je suis Pamela Mounazo-Moalou. Alain Goy est à la prise de son sous la supervision de Jean-Marc Matuaké. Recevoir notre invité, sachez que la prise du pouvoir par le haut commandement de l'armée nationale congolaise le 24 novembre 1965, de l'avis de certains analystes, ne paraît pas avoir été préparée de longue date. L'irruption des chefs de l'ANC sur le terrain politique à l'aube du 25 novembre, mûrie en quelques jours, fut décidée en quelques heures. A posteriori, on aperçoit certains éléments qui ont indirectement prédisposé les officiers à une action politique. D'une part, la réorganisation matérielle de l'ANC et son encadrement par bon nombre d'officiers étrangers avaient fait d'elle une structure relativement ordonnée, surtout si on la compare avec la faiblesse du pouvoir et l'administration civile. D'autre part, la rigueur avec laquelle la justice militaire avait commencé à fonctionner, faisant apparaître les civils comme privilégiés par rapport aux militaires, puisque plusieurs officiers, et non de moindres, avaient été condamnés pour détournement, tandis que le personnel politique et administratif jouissait d'une forte immunité que plusieurs de ses membres mettaient à profit. Il semblait cependant que le général Mobutu n'ait pas envisagé formellement l'idée d'un coup d'état de force jusqu'au 16 novembre, alors que l'impasse était à ce moment totale entre le FDC et la CONACO. Le 17, journée de l'ANC, marque sans doute le tournant. Les milliers des diplomatiques occidentaux, inquiets de l'attitude de la délégation congolaise lors du vote de l'admission de la Chine à l'ONU, prennent contact avec le général Mobutu et ses officiers supérieurs. C'est à ce moment que Nendaka prend ses distances à l'égard du FDC et qu'une crise s'ouvre au sein de cette formation. Le 21 novembre, sous un prétexte peu important, le général Mobutu rencontre Kamitatu et saisit cette occasion pour demander au ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Kimba les raisons de l'attitude congolaise à l'ONU. Le ministre explique alors qu'il s'agit de la suite logique des décisions d'Accra et de la première manifestation importante du refus congolais de s'intégrer à un bloc. Ce même jour, après le déjeuner, le général Mobutu s'entretient avec Jean-Joseph Lito, son parent, auquel il exprime son mécontentement parce que 7 de 9 parlementaires de Lubangui ont refusé la confiance au gouvernement Kimba, alors que le général leur avait expressement suggéré le contraire. Le 21 novembre, toujours le général Mobutu et Évariste Kimba rencontrent Bolikango pour lui demander d'accepter le portefeuille des travaux publics, ce qui renforcerait en fait le FDC. Le 22 novembre, les événements prennent une tournure nouvelle. Kimba est prévenu par Tshombe que les leaders Katangé a des entretiens en compagnie du général Mobutu avec l'ambassade des USA. Le 23 novembre, les leaders du FDC tentaient vainement d'obtenir une entrevue avec le général Mobutu qui se déclare trop absorbé par la préparation de la cérémonie du lendemain, messe anniversaire pour Stanleyville, et de la réunion également le lendemain du quartier général et du haut commandement de l'ANC. Le comité du FDC convoque donc M. Nendaka pour lui demander des explications sur ses contacts qu'il aurait eus avec des milieux diplomatiques étrangers. Il semblerait que vers 18h, 30 des leaders du FDC et de CONACO sont mis au courant par des officiers que quelque chose se prépare. C'est le 24 novembre, dans la journée, que les personnalités du FDC et CONACO apprennent qu'un coup d'État se prépare. Plusieurs leaders du FDC tentent alors d'atteindre M. Kassavubu, mais la présidence de la République ne répond pas. Tout porte à croire que le téléphone avait été débranché. Par ailleurs, les officiers font savoir à M. Kassavubu que le FDC est peu cohérent et qu'il faut trancher une situation malsaine. Le soir du 24, Kimba prévient les leaders du FDC que le coup d'État est pour la nuit. Le même soir, un membre de l'assistance technique militaire est convoqué par le quartier général et reçoit l'ordre de préparer la déclaration du coup d'État. Le texte est terminé vers 2h du matin, le 25 novembre, et lui au micro de la radio Léopoldville, une première fois à 5h30. On remarque que la proclamation ne fait que mention d'une durée précise quant à l'exercice du pouvoir. C'est à la suite du conseil qui lui fut donné le matin du 25 novembre par une personnalité anti-tchombiste que le général Mobutu précisera dans sa conférence de presse à 10h du matin, qui prend le pouvoir pour 5 ans, que les élections présidentielles n'auront donc pas lieu, que le colonel Moulamba est le premier ministre également pour 5 ans et que les chambres seront réunies l'après-midi pour approuver le coup d'État. Dès l'après-midi du 25 novembre, les chambres réunies en congrès approuvaient par acclamation le coup d'État. Le président du Sénat, Sylvestre Moudingaï, lut d'abord la proclamation du haut commandement, puis le message du président de la République, après quoi il leva la séance. Après ce survol historique, recevons à présent notre invité et jeune Baniakou Luapé Epotou, professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa, ancien juge à la Cour constitutionnelle, ancien ministre et auteur de plusieurs ouvrages, dont « La lettre ouverte à Massiré »,« Les aspects politiques du développement analyse critique »,« Chronologie, monographie, documentation sur l'histoire politique de la RDC des années 60 aux années 70 ». Il s'entretient avec Jean-Marc Matwaki.
Professeur Baniakou Luapé, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à un événement qui s'est déroulé 5 ans et 5 mois après l'accession de notre pays à l'indépendance, un certain 24 novembre 1965. Certains les qualifient des coups d'État de Mobutu, où on a assisté à la neutralisation des institutions politiques par l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, professeur, ces jours-là, le 24 novembre 1965?
Je pense que le coup d'État, ou si on doit situer ce que vous avez appelé l'événement, moi je parlerai plutôt des événements le 24, puisqu'il y a eu comme un découplage des événements. Sur le plan politique, il y a eu une crise de légitimité qui datait des années 60, après qu'on ait évincé le premier ministre Patrice Lumumba et le remplacé systématiquement par des premiers ministres qui, sur le plan tout simplement classique, relevaient de l'opposition. C'est-à-dire, il y a eu comme la perte de la majorité Parlement au profit d'une opposition qui en était une, puisque le parti n'ayant pas gagné les élections. Sur le plan économique, il y a ce qu'on peut dire, le ressort économique s'est à la fois effondré et à cause de la décapitalisation de capitaux intensifs. C'est-à-dire, après l'indépendance, il y a eu une fuite des capitaux qui était organisée pratiquement par l'administration et par le capitaliste étranger qui était, ce qui a fait que la machine économique est tombée presque à zéro. Et puis, en plus, le poids de la dette coloniale, c'est-à-dire que brusquement, alors que le Congo était créditeur, puisque la Belgique, notre compte avait, par rapport à la Belgique, nous avions une balance positive. Brusquement, on se retrouve avec une balance négative, on devait payer une dette coloniale énorme de presque 5 milliards en ce moment-là de francs belges. Alors, sur le plan social, on comprend qu'avec tout ce contexte économique, il y a eu un chômage généralisé, pratiquement tout ce qui fonctionnait encore est tombé. Il y a eu une dévaluation de la monnaie qui s'est fait ressentir sur le pouvoir d'achat, et puis il y a eu une désarticulation du modèle social. C'est-à-dire, brusquement, les gens qui qui étaient dans les réseaux normaux de fonctionnaires, de petits travaux informels, se sont retrouvés pratiquement sans emploi et sous son moins sans organisation sociale. Ça a été quand même un fait qui a été au niveau de l'opinion comme si le peuple était abandonné, et c'est dans ce contexte qu'intervient le coup d'État. Le coup d'État qui était non seulement un événement, mais plusieurs événements liés.
Quand la direction de l'armée a pris la décision de neutraliser les institutions de la République, ça s'est passé comment dans le vécu quotidien?
Non, il faut vraiment prendre le fait, c'est que l'armée dont on parle, ce n'était pas la direction de l'armée dont on parle, c'est qu'il y avait un chevauchement entre le politique et l'armée. Mmh. Puisque depuis 60, il y a la revendication du moins des militaires qui était quand même importante, puisqu'ils ont vu les civils accéder au pouvoir, c'était devenu presque tous des ministres, de députés, et eux, ils sont restés dans leur statut pratiquement inférieur. Et ça fait que la revendication militaire était même en même temps une revendication politique. Et qui a fait que quand les militaires arrivent au pouvoir, ce n'était pas le premier coup d'État. Mobutu avait déjà fait un coup d'État en septembre 60 où il voulait mettre fin justement à la crise qui était entre Lumumba et Kasavubu. Mais dans les faits, ils prenaient en charge une revendication où le militaire se retrouvait comme un peu abandonné par rapport aux politiques, par rapport aux civils. Et ça a quand même eu un effet d'aggravation, c'est-à-dire vite, le militaire, il accède non seulement pour mettre de l'ordre, mais surtout aussi pour se retrouver sur la scène politique.
Vous avez évoqué en passant les facteurs qui nous ont amenés à cette situation, mais les conséquences maintenant dans le vécu quotidien et même sur le fonctionnement des institutions en place, ça s'est passé comment?
Oui, moi je voudrais ici, pour mettre un peu les conséquences de ces coups d'État, il y a d'abord l'entrée en scène d'une nouvelle classe avec effet de déclassement du parti politique d'une grande partie des élites et clercs, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé pendant la colonisation. Ce qui donnait l'impression, au lieu que ce soit un renouvellement, c'est-à-dire des nouvelles personnes, des nouvelles élites, mais c'était plutôt un vide général de l'État. C'est-à-dire que ce qui venait avec Mobutu n'avait soit pas suffisamment de compétences, soit pas d'expérience, et ça donnait ce vide qui a fait pendant 2 ans le pouvoir tournait, le régime tournait presque dans le vide, ce qui a fait que des remplissages comme la nature a horreur du vide, ce qui a fait que c'est pratiquement un peu de l'aventurisme, c'était du remplissage qui a fait que ça a vite déraillé, en dehors de quelques élites qui accompagnaient, de quelques universités qui accompagnaient Mobutu, c'était presque du n'importe quoi, des gens qui n'étaient pas dans les règles des fonctions qui ont accédé, ce qui a fait vite le dérapage du parti unique, au parti État, à l'institutionnalisation du parti unique. Et ça, ce n'est pas un fait, comme on dit, que au niveau de colonies, par exemple françaises, même s'il y a eu le même cheminement, mais c'est différent, ça s'est passé dans un autre contexte. Ici, c'était vraiment, on était dans, je dirais, dans le bordel. N'importe qui pouvait être animateur, n'importe qui pouvait être ministre, jusqu'à un temps, et ça créait quand même, ça donnait quand même une impression d'un vide généralisé de l'État. Alors, comme vous pouvez deviner, quel est l'impact social que cela a eu? L'impact social le plus évident, c'est que la société était totalement désarticulée. Les normes qui soutenaient l'État, les valeurs étaient totalement tombées. On est entré carrément dans un clientélisme exagéré, et ce clientélisme a eu un impact sur la foi en l'État, sur la foi à la personne du chef de l'État, ainsi de suite.
Il n'y a pas eu de réaction de la part de la communauté internationale et de l'Union africaine en ce moment, étant donné la position stratégique du Congo.
Oui, au niveau international, on trouve deux phénomènes qui s'interposent. Il y a sur le plan interne, l'Afrique politique était encore dominée par l'opposition entre le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Casablanca reprenait pratiquement tous ces États qui étaient pro-Lumumba, qui s'opposaient à Guinée, Ghana, le Maroc, qui s'opposaient à ce que le pouvoir passe du côté de ceux qu'ils appelaient les anti-Lumumbistes. Et de l'autre côté, Monrovia, un peu soutenu par les Français ou la communauté internationale, était pour soutenir le pouvoir systématiquement de l'opposition, déjà de Adoula, et on est venu à Ndjombe. Ce qui fait qu'au niveau international, il y a eu, je dis, un découplage entre un camp, le camp de progressistes comme ils appelaient, et l'autre camp. Mais au niveau vraiment de la communauté, je dirais extra-africaine, il y a eu, comme on dit, un complot. Les gens voulaient, une fois pour toutes, s'accaparer du Congo. Malheureusement, le président Mobutu a mal réagi en faisant des nationalisations ou ce qu'ils appelaient les aryanisations, ça, ce qui a encore empiré la situation. Mais de manière générale, le Congo n'a jamais été un enfant chéri de la communauté internationale. Mais maintenant, là, c'est les méthodes à répondre. Ça, c'est, je pense que l'approche souverainiste, comme de plus en plus on en entend parler, ce n'est pas une bonne approche. Puisque il faut tout simplement garder le juste milieu, c'est-à-dire comment protéger les intérêts, comment protéger l'État, comment concilier l'intérêt privé et l'intérêt public. Ça, ce sont des arbitrages qu'un État doit avoir. Ça, c'est, ça demande pas des extrémismes, ça demande tout simplement d'avoir la tête froide et la modération pour juger.
Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Vous êtes le bienvenu sur Venapin de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez Radio Capi qui vous propose son magazine Un jour une histoire qui reçoit un politologue, un témoin de l'histoire de notre pays, le professeur Eugène Bagnacouloapé Potou, auteur de plusieurs ouvrages. Avec lui, nous parlons d'un événement qui s'est déroulé le 24 novembre 1965, que d'aucuns qualifient de coup d'état de Mobutu, qui a neutralisé les institutions politiques du pays et l'armée a pris les pouvoirs. Professeur, si on revient un peu sur les causes lointaines et immédiates de cet événement qui a eu lieu le 24 novembre 1965, qu'est-ce qui peut être considéré comme les causes lointaines et immédiates de cette instabilité?
La cause lointaine, si on peut partir déjà des 60, il faut dire que la crise, la vraie crise du Congo, qui date des années 60, c'est une crise de légitimité, c'est-à-dire une perte de confiance de la population à la classe politique et aux institutions. Et ça a traîné ça déjà des 60, des 61, des rébellions qui se sont ajoutées, surtout essentiellement du côté de l'Est, bien qu'à l'Ouest aussi, il y a eu Molele qui avait organisé aussi une rébellion. Mais tout ça faisait que un peu il y a une marque où on devait trouver, peut-être pas dans le sens de la qualification, mais dans le sens de la rupture. C'est malheureusement cette rupture qui s'est mal passée, puisque celui qui est venu, il n'est pas venu comme un arbitre. Il est venu déjà un homme engagé depuis 60 et qui a voulu faire un du sien avec tous les extrémismes. Ça, c'est, il faut le dire. Ce qui nous amène aujourd'hui à la situation, c'est que les gens ne font pas attention. Le Congo est dirigé avec des extrêmes. Tantôt, on a l'impression que la rébellion résout, mais quand on met fin à la rébellion, on trouve que c'est plutôt des dégâts. On a l'impression que faire un peu face à la pression extérieure, qu'on bombe la poitrine, mais quand c'est passé, on trouve que on a été même plus asservi que par le passé. Donc, moi, je me dis très sincèrement, une faible légitimité des institutions ou de la classe politique, ça se répète. Et ça, moi, je trouve comme origine, si on peut faire de cause à effet, c'est plutôt la mauvaise organisation des élections depuis 60. Et ça a été encore rendu plus catastrophique avec le parti unique où il n'y avait presque plus. Donc le pays a passé comme ça presque 40 ans de non-organisation de l'État, 40 ans de non-représentation des populations aux institutions. Et ça, on les ressent jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est pourquoi il faut faire très attention à l'organisation des élections, puisque c'est presque l'élément dynamique, l'élément générateur de toutes les crises que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui.
Justement, là, on aborde les points sur les leçons que l'on peut tirer de ces coups d'État du 24 novembre 1965, coup d'État de Mobutu qui est intervenu 5 ans et 5 mois après l'accession du pays à l'indépendance. 53 ans après, professeur Banya Kouloapé, quelles leçons peut-on tirer ou doit-on tirer de tous ces événements?
La première leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut trouver de nouvelles bases de légitimité de l'État. Et ces nouvelles bases de légitimité ne peuvent s'obtenir que lorsqu'on donne la place à une représentation nationale, véritable, c'est-à-dire par des élections. Bien évidemment, dans un premier temps, je ne veux pas exclure des ratés où on trouve quand même un parlement ou un président mal élu, mais au moins, c'est une base. Il faut une représentation nationale légitime et démocratique. Ça, c'est une première leçon, puisque nous y sommes depuis 60. Et de deux, je pense qu'il faut quand même des valeurs. Il faut quand même des valeurs démocratiques. Vous ne pouvez pas vanter quelqu'un qui estime que pour accéder au pouvoir... En fait, comme je dirais, si on fait en science, c'est un régime punitif qui s'est installé. Et puis, ce régime punitif entraîne des violences. Je pense que ce qu'il faut chercher maintenant par rapport aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, c'est un pacte républicain. Il ne faut pas que l'assassinat soit comme un mode normal de régulation ou de résolution des conflits. On a assassiné plusieurs personnes. C'est un des États d'Afrique centrale qui a connu le plus d'assassinats politiques. Et non seulement assassinats politiques, mais élimination physique des personnes. Et je crois que ça, il faut qu'à un moment on s'arrête, qu'on dise, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un pacte républicain de la non-violence, un pacte républicain de respect des valeurs humaines et un pacte républicain de respect de la République. On ne peut pas faire la République en pensant qu'on est le plus fort puisqu'on dirige. L'expérience nous montre que après 3 ou 4 renversements de pouvoir, quand on fait rétro, on voit que ça n'était rien, que c'est du gaspillage.
Justement, vous évoquez déjà en partie les pistes et des solutions qu'il faut préconiser pour prévenir ce genre de situations dans l'avenir et surtout qu'on a connu d'autres événements du genre. Quelles sont les pistes et des solutions qu'il faut prendre en considération et comment les matérialiser, professeur Banya?
Je pense que la première piste, c'est la responsabilité politique. Vous savez, ce qu'on ne remarque pas, tout le monde a démissionné. Et je pense que c'est en partie le grand gâchis. Puisque le président de la République ne prend pas toute la responsabilité qu'il faut. Et puisque lui, il ne prend pas sa responsabilité, tout ce qui l'entoure, ils en font un peu trop, puisqu'on sait que non, s'il faut nommer des gens, le président ne connaît pas les gens, ils s'en foutent pour lui qu'il y ait peut-être un équilibre. Et alors, là-dedans, les gens en profitent. Et nous avons connu beaucoup de dégâts, non seulement maintenant, mais on s'en souvient lorsqu'il y a eu la retraite des magistrats ou le déclassement des magistrats, 300 personnes qu'on élimine comme ça, presque de manière arbitraire. On s'en rend compte que ceux qui sont restés, ça n'a pas fait vraiment de la bonne magistrature. Donc moi, à mon sens, il y a ce recadrage au niveau de la responsabilité. Le président de la République doit prendre la responsabilité d'être les garants de la nation, d'être celui qui donne des orientations. Le Parlement doit faire des lois, pas les lois uniques, ou c'est les ratés, ça doit faire des lois qui servent. Le gouvernement doit présenter, exécuter ces lois et faire, comme on dit, la politique qu'il faut. Et je pense que c'est à ce niveau que le chose de maintenant. Donc, il y a un vide. Personne ne fait ce qu'il doit faire.
Et au niveau de la classe politique et de la population, comment les rôles peuvent être partagés et distribués?
Au niveau de la classe politique, je pense que, là, il faut dire, être honnête, nous n'avons pas une tradition de la classe politique ou de la parti politique. On n'a pas une longue tradition. Le tout commence en 57, alors que dans certaines colonies françaises ou anglaises, c'est depuis 1946, quand les gens étaient déjà associés, initiés, il y en a même qui participaient aux institutions, même de manière directe, mais qui participaient à l'organisation de l'État. Ici, chez nous, comme vous le dites bien, au niveau de l'élite, c'est la même chose, puisque l'élite a été formée très récemment. Nous n'avons pas encore un cinquantenaire des élites congolaises. Et les quelques élites qui sont là-bas, ils ont été tellement misérabilisés qu'aujourd'hui, quelqu'un vous dit « Non, le professeur Banyankou, c'est quand même un pied de main, patatras, ça devient quelqu'un qui court derrière des postes, qui commence à louer, qui commence à dire n'importe quoi. » C'est ça aussi un peu cette crise. Mais moi, je fais confiance à votre génération en me disant que nous n'avons pas bénéficié des backgrounds suffisants. La classe politique est sortie comme des champignons et sont vraiment en blase. Donc on a une tête, mais le corps est très, très faible. Le corps de la constitution d'une conscience élitiste est très faible. Et au niveau de la société, bon, là, il faut le dire très sincèrement, on est, comme on disait, on est à l'idiotisation totale. On est en plein des 30 ans dans les Ndombolo. Et puis, ça a changé même dans les langages. Les Quinois, ils parlent un peu comme du créole. Ce n'est plus articulé. Et quand le langage n'est pas articulé, c'est que l'esprit n'est pas non plus articulé. Et ça, on le trouve au niveau de la société. Et les gens se prennent soit leur langage, soit leur comportement comme des choses normales, alors qu'on est déjà dans la déviation la plus éloignée de la norme de vie, de la norme sociale.
Alors, vous demeurez optimiste, pessimiste ou réaliste?
Je me dis qu'il doit avoir des lignes conductrices. Il faut des repères. Et on ne peut pas rester, moi, puisque je me dis que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le rythme des déviations est maintenu, eh bien, on sera comme Haïti, c'est-à-dire on peut être plongé comme ça. Il y a beaucoup d'États qui ont sombré dans l'inconscience, dans l'ignorance, et beaucoup d'autres États qui ont remonté. On a l'exemple de Cuba, on a l'exemple de la Chine, on a plusieurs États qui ont remonté à cause tout simplement d'une volonté politique, une politique volontariste.
Professeur Eugène Banyankou Luapé Potou, professeur de sciences politiques à l'Université de Kinshasa, ancien juge de la Cour constitutionnelle, politologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un porte justement sur la chronologie, monographie et documentation sur l'histoire politique du Congo des années 60 aux années 90, paru aux éditions Compodor. Il y a encore un autre, prospectus électoral, estimation démographique et documentation sur les modes des scrutins, en deux tomes. Avec vous, nous avons révisité l'histoire du pays et particulièrement les événements qui se sont déroulés le 24 novembre 1965. Professeur, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin votre magazine Un jour une histoire. Merci à notre invité. Nous recevions donc pour vous le professeur Eugène Banyankou Luapé Potou. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Kinshasa et ancien juge à la Cour constitutionnelle, ancien ministre et auteur de plusieurs ouvrages. Merci à Jean-Marc Matoki également qui était à la réalisation de cette émission, à la coordination et puis qui a rencontré notre invité, la prise de son de Alain Goy. Merci à Alain, je suis Pamela Mounazo-Moalou. On va donc se retrouver le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, agréables conditions d'écoute de la suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.